Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Marguerite Caton, mais aussi Mélanie Chalandon, Samuel Bernard, Corentin Mansois, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Nasser Moussaoui. Dernière émission de notre série consacrée aux guérillas linguistiques. Lundi, nous comptions les langues mortes ou disparues des champs de bataille culturels. Mardi, nous dessinions les antagonismes et les rivalités alphabétiques d'Asie centrale. Hier, pour la journée internationale de la francophonie, nous étions en Afrique de l'Ouest sur les traces des exclus linguistiques. Aujourd'hui, il est temps de faire la paix, de se réconcilier de Babel à Google Trad vers un nouveau langage universel. Point d'interrogation, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
Je suis une intelligence artificielle. Je ne vous déteste pas. Vous êtes mon ami.
On édite à peu près 800 titres par an, ce qui représente par jour ouvrable à peu près 4 titres par jour. Pour l'instant, on travaille sur 6 langues, mais on ouvre tous les ans une ou deux nouvelles langues.
Le fait de pouvoir traduire les posts de quelqu'un dans une autre langue a été vraiment au centre des produits. Et plus ça va, plus on essaie d'améliorer ça. Et surtout, un des gros points sur lesquels on investit beaucoup, c'est pour traduire les langages qu'on appelle rares, ou en tout cas les langages pour lesquels il y a peu de données traduites.
En fait, au début, on voulait faire une traduction assez classique du livre, donc avec des traducteurs, sauf qu'on a eu un problème sur à la fois le temps et l'équation économique. Donc le temps, c'est que ça nous aurait pris plus d'un an pour le traduire, et le coût de la traduction aurait été tellement important qu'on n'aurait jamais réussi à arriver au point mort pour le livre. Donc le livre ne serait jamais sorti s'il n'y avait pas eu l'aide de l'intelligence artificielle.
Petit problème de serveur, mais ça va mieux maintenant. J'ai peut-être encore 2 ou 3 bugs, mais je suis sûr que les ingénieurs vont vite les résoudre.
Google Trad, Siri, Alexa, l'assistant virtuel de Facebook, les intelligences artificielles polyglottes se multiplient et semblent bien nous rapprocher du vieux rêve biblique de l'unité des peuples. Car rappelez-vous la Genèse. À l'origine, les hommes partageaient une seule langue, mais Dieu les punit de leur gratte-ciel babylonien en les condamnant à se disperser en lieux et idiomes divers. Dès lors, malentendus et mésententes s'installèrent. Mais réjouissons-nous, mes frères, les entreprises de la Silicon Valley refusèrent de baisser les bras. Pour échapper aux foudres divines, elles firent le pari d'une révolution immatérielle et impalpable, la reconstruction d'une cité commune appelée web et d'un langage universel, le code. À défaut de créer une langue unique, le projet est bien de traduire toutes les langues instantanément, de sorte qu'elles ne fassent plus obstacle à la communication universelle. Alors l'intelligence artificielle va-t-elle véritablement effacer les barrières linguistiques? Va-t-on échapper à l'enfermement sur soi-même et au particularisme? Le plurilinguisme finira-t-il par nous être implémenté pour enfin faire régner la concorde et la fraternité? Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité d'abord, il en fallait un, et lequel? Un philosophe, bien sûr, Hans Wiesmann, bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes donc philosophe, philologue également, directeur d'études en épistémologie des sciences humaines à l'École des hautes études en sciences sociales. Et puis, Jean-Louis Dessalles est également avec nous. Bonjour.
Bonjour Florian Delors.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes vous enseignant-chercheur à Télécom Paris Tech, Institut Polytechnique de Paris donc.
C'est ça.
Voilà, et puis auteur de plusieurs ouvrages, des intelligences très artificielles, mais aussi un ouvrage collectif qui était paru il y a une dizaine d'années, je crois maintenant, Les origines du langage. On va commencer avec vous, tiens, Jean-Louis Dessalles. Mm-hmm. Ça fait très longtemps, évidemment, que la traduction automatique, elle existe. En fait, on en fait depuis quasiment le début de l'informatique, mais c'est vrai que ces dernières années, elle connaît un essor absolument spectaculaire. Il y a désormais des technologies qui permettent de faire des traductions de bien meilleures qualité, y compris des dispositifs qui permettent à des individus qui ne parlent pas la même langue d'échanger quasi directement avec un logiciel de traduction en temps réel. Il y a ça par exemple, j'ai appris ça, moi je l'ignorais, mais Pixel Buds de Google, c'est exactement ça. Est-ce que ces progrès sont le fait de l'émergence de l'intelligence artificielle et du deep learning? Il va falloir voir peut-être ce que c'est qu'il y a derrière. Et au fond, en matière de traduction, quelles sont les promesses de l'intelligence artificielle? Jean-Louis Dessalles.
Oui, vous avez raison de dire qu'il y a eu des progrès récents, des progrès à la fois quantitatifs, puisque bon, presque tout le monde a déjà essayé d'utiliser la traduction automatique sur le web, mais des progrès qualitatifs dans les derniers mois même. Hein, on a tous été témoins de cette fantastique amélioration de la qualité de la traduction automatique. Au point que, vous l'avez souligné, maintenant on a des traductions qui sont parfois largement acceptables. Qui feront gagner un temps considérable. Alors qu'avant, je me souviens, où il fallait tellement corriger les traductions automatiques que finalement...
On l'utilisait pas.
Exactement. Mmh. Alors à quoi c'est dû? Vous avez mentionné l'intelligence artificielle en général, mais plus récemment l'utilisation du deep learning, l'apprentissage profond. Certainement, voilà, c'est ça. C'est la technique, alors deux techniques qu'on appelle, donc l'apprentissage profond d'un côté, l'autre qui s'appelle le plongement lexical en français, c'est le word embedding.
Qui n'est pas directement lié à la technologie
Ça reste des réseaux de neurones. Dans les deux cas, deep learning et plongement lexical restent des réseaux de neurones. Les réseaux de neurones, c'est une vieille technique. Ça date... Bon, il y a des origines lointaines, mais le premier essor était en 1985, c'est pour vous situer. Donc. Et puis après, une dizaine d'années après, tout le monde a considéré, et moi aussi, que c'était has-been, que c'était tout à fait sans intérêt. Et puis, sous les radars, les chercheurs se sont entêtés, ont continué à améliorer les choses. Moi, je me souviens, j'avais un petit peu entendu ça. J'ai à l'école des télécoms, la Télécom Paris-Tech, j'ai des stagiaires. Il y en a qui avaient été travaillés sur ce sujet. Et je commençais à entendre parler d'apprentissage profond en 2006. Mais c'est vraiment en 2010 que l'apprentissage profond a explosé. Pourquoi ? Mais parce qu'il devenait. Tout le monde a compris que l'intelligence artificielle, enfin, depuis un demi-siècle qu'elle existait, parvenait à traiter des vrais problèmes à partir de données brutes. Donc, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, les données brutes, c'est la langue, le langage lui-même.
Hans Wiessmann, compte tenu de la vitesse, de la qualité des traductions qui sont aujourd'hui proposées par les différentes technologies, par les technologies les plus poussées, on va bientôt pouvoir se passer de l'apprentissage des langues. Qu'en dit le philosophe fasciné de l'ailleurs, de l'étranger, du vagabondage que vous êtes ?
Enfin, je crois qu'il faut poser la question en distinguant des niveaux de langage. Il y a certains niveaux de langage qui sont parfaitement automatisable, si j'ose dire, dans la mesure où il s'agit du simple dire, de la désinertion, ce que j'appelle l'usage dénotatif d'une langue. Eh bien, là, il n'y a aucune raison de penser qu'on ne puisse pas charger une machine de reproduire des équivalences précises et exactes. Mais dès qu'on s'élève un tout petit peu dans l'ambition du locuteur, et que le vouloir dire s'ajoute au dire, ça se complique. Quand je dis, je prends un exemple idiot, quand je dis de quelqu'un que c'est un âne, eh bien au niveau dénotatif, ça veut dire que c'est un animal gris avec de longues oreilles, au niveau connotatif, ça veut dire que je le traite d'idiot. Et déjà, là, il y a un premier seuil à franchir, parce que ce niveau du vouloir dire peut encore se compliquer lorsque j'entre dans la vraie créativité langagière. C'est-à-dire les œuvres, par exemple, les œuvres langagières dépassent d'une certaine manière le niveau du simple vouloir dire en introduisant encore une dimension d'étrangeté, c'est-à-dire un souci de dire les choses autrement qu'elles n'ont jamais été dites, et cela en respectant quand même le matériau de base qu'est le lexique, la morphologie, et puis évidemment la syntaxe, la langue en question. Donc, moi, je trouve que ce n'est pas utile de parler en général de ce problème. Il faut pointer, je l'ai entendu dans ce que vous avez dit tout à l'heure, il faut pointer un véritable niveau d'accessibilité pour traductions mécaniques qui, à mon avis, joueront un rôle de plus en plus grand et de plus en plus prometteur et qui auront une utilité, et je dis utilité, absolument extraordinaire.
Jean-Louis Dessalles, que vous inspire cet exemple pris par Hans Wiessmann ? Effectivement, on peut se poser la question, au fond, est-ce que l'intelligence artificielle sera demain, aujourd'hui non, mais sera demain en capacité d'aller dans la subtilité décrite là à l'instant par Hans Wiessmann avec cette histoire d'âne, ou est-ce qu'il faut l'oublier et définitivement elle n'y arrivera pas, de même qu'elle n'arrivera pas, par exemple, à traduire de la poésie, de même à ce que...
D'abord, dans ce métier comme dans d'autres, il ne faut jamais dire jamais. D'accord. Donc là, il faut distinguer ce qui est accessible par l'extrapolation des techniques actuelles, ça on peut en parler, même si c'est du futur, de ce qu'on pourrait théoriquement faire, et ça c'est infini. Bon, enfin, voilà. Donc là, on va parler uniquement de ce qu'on peut raisonnablement anticiper. Mmh. Et actuellement, ce n'est pas vraiment le problème des ingénieurs de reproduire l'intention, de reproduire... Leur problème, c'est de... En fait, derrière ces techniques qui sont très, très impressionnantes, il y a beaucoup de tricherie. C'est-à-dire que le système va traduire en utilisant énormément de phrases déjà traduites. Et donc la prouesse du système n'est pas d'inventer une traduction, c'est de trouver la bonne parmi toutes celles qui existent.
Bien sûr.
Alors très souvent, la phrase exacte n'existe pas, mais elle existe presque. Et donc il y a peut-être un mot qui va être différent. Et la prouesse, là, ça va être de dire « Ah, j'ai un mot d'écart, mais peut-être que les deux mots, je peux trouver un autre mot très proche, dont le sens est très proche, et qui va me permettre d'avoir une traduction correcte. »
Alors, justement, vous avez utilisé le mot sur lequel je voulais vous interroger, le sens. Est-ce qu'au-delà du mot, une machine peut comprendre le sens? Et est-ce qu'on essaye de lui apprendre ce concept de sens?
Il y a plusieurs façons d'accéder au sens. Une façon humaine consiste à dire, comme vous avez dit tout à l'heure, un âne, vous imaginez l'image de l'âne, il est gris, avec des oreilles longues, etc. Et puis, évidemment, ça c'est pour l'instant inaccessible aux machines. Les machines vont accéder au sens d'une manière pas du tout humaine. Elles vont faire des statistiques sur la présence des mots dans les phrases. Et donc, elles vont s'apercevoir que, par exemple, blanc et noir sont très proches parce que ce sont les mêmes phrases qui contiennent blanc et noir au même endroit. Donc, un chat noir, un chat blanc, bon, qui va. Et la machine va en déduire à coup de statistiques que ces deux mots-là sont très proches. C'est pas du tout comme ça que les humains font, mais ça fonctionne souvent. Ça fonctionne dès qu'on est dans un contexte assez général, dès qu'on est dans des situations où il s'agit de traduire des textes un petit peu abstraits, donc il n'y a pas d'aspect concret, on n'est pas ici et maintenant, on est sur des généralités, la machine est excellente. En revanche, dès qu'on passe sur des situations concrètes, ce qui est le cas de ce que vous avez cité tout à l'heure, les robots ou Alexia ou Siri, le rêve des développeurs, c'est de leur permettre de comprendre le langage en situation immédiate. Et là, on a, c'est plus compliqué, il faut s'interfacer avec la perception.
Il y a peut-être aussi des menaces qui pourraient être produites par l'évolution de ces technologies, Hans Wiesmann, et notamment peut-être des menaces sur l'appauvrissement des langues. Vous participiez il n'y a pas très longtemps à une émission sur cette même antenne, sur France Culture, Matière à penser avec Frédéric Worms, et voilà ce que vous disiez, je vous cite. « Quand on passe d'une langue à une autre, on est comme suspendu au-dessus du vide. Cette expérience extraordinaire qu'on peut appeler un déracinement, qui précède un réenracinement, c'est ce moment où le funambule passe d'un point fixe à un autre point fixe. Je vois les rapports entre les langues sous cette forme-là. Toutes les langues ont besoin de funambules pour ne pas s'appauvrir peu à peu. » Peut-être que précisément, avec la machine, au fond, le funambule, il n'est plus là. Alors, est-ce que, justement, il y a un risque d'appauvrissement des langues, voire carrément, pourquoi pas, de disparition de certaines d'entre elles?
Enfin, je n'irai pas jusque-là, mais il y a un risque, et je vais peut-être donner un exemple très, très ludique. Il y a quelques années, des amis avaient créé une revue de poésie consacrée entièrement à des poèmes d'amour. Or, ces poèmes d'amour étaient le résultat de traductions de sites porno américains par un logiciel de traduction qui, en se plantant, produisait à son insu de la poésie. C'est exactement comme c'est extraordinaire. Comme l'écriture automatique des surréalistes, c'est-à-dire on prélevait évidemment les réussites, on laissait tomber tout ce qui était sans intérêt, mais ça a marché pendant quelque temps. Or, les performances du logiciel de traduction s'améliorant, peu à peu, la poésie disparaissait et dans la traduction subsistait le site porno américain. Donc on est resté dans l'univers plat, sans invention, sans décalage, sans poésie de la pornographie. Et ça, je trouve ça un très joli exemple parce que, d'un côté, il faut reconnaître que les logiciels de traduction s'améliorent. Et en un sens, il faut s'en féliciter, parce que ça nous donne des possibilités extraordinaires dans certains domaines de l'usage du langage.
Vous les utilisez vous-même, vous qui êtes un grand traducteur, Kant, Épicure, etc. Est-ce que vous utilisez ces logiciels vous-même?
Non, pas dans mon domaine, c'est absolument inutilisable. C'est très cocasse d'ailleurs. Mais encore une fois, moi, je ne jette pas la pierre sur ces technologies qui, à leur place, et par le perfectionnement vers lequel elles tendent, ont un rôle à jouer que je trouve absolument essentiel. Simplement, il faut se rendre compte que c'est un faux problème que de se dire que les langues dans lesquelles nous exprimons ce qui nous est le plus personnel et qui est parfois lié à des défaillances. Ce n'est pas un perfectionnement. Je peux avoir éprouvé de l'ennui, de l'angoisse. Eh bien, tous ces sentiments crée cet abîme où le funambule s'engage lorsqu'il essaye de trouver l'expression appropriée qu'il souhaite suggérer à son interlocuteur. Et c'est à ce niveau-là qu'il me semble que ça ne peut pas fonctionner.
Je voudrais poursuivre un tout petit peu avec vous, et puis je vous donne la parole dans un instant, Jean-Louis de Salles, mais sur cette question de la menace ou pas de disparition de langue, on pourrait poser la question de façon un peu plus nuancée, et peut-être s'interroger sur la remise en cause, peut-être, de l'hégémonie, par exemple, de l'anglais. Le fait qu'on soit, au fond, avec ces nouvelles technologies, plus obligés d'avoir tous l'anglais en commun, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait faire reculer, précisément, l'hégémonie de l'anglais ?
Mais on voit très bien que l'anglais international, qui correspond donc au niveau accessible, immédiatement accessible, à ses performances techniques, se distingue radicalement des différents anglais qui se parlent dans le monde et qui sont des langues de culture. Et je distingue toujours la langue de service, qui rend d'éminents services, encore une fois, de la langue de culture. Et l'anglais d'Angleterre, par exemple, est une langue d'une subtilité telle et qui évolue constamment qu'il est tout à fait absurde de considérer qu'elle est menacée par l'anglais international. Et quand les Français, au nom de la francophonie, post-colonial, c'est un conflit post-colonial, disent que le français est menacé par les anglicismes, je leur dis, mais vous n'avez qu'à parler français. Ça dépend de votre choix. Ce n'est pas un destin qui automatiquement vous dépossède de votre langue. Mmh. Et donc, je suis absolument persuadé que si les hommes veulent s'aligner sur ce qui est la face appauvrie de la langue, utile, certes, qui rend service. S'ils veulent s'aligner là-dessus, libre à eux. Dans ce cas, les langues disparaîtront. Mmh. Mais tant qu'il y aura des gens qui veulent dire des choses qui n'ont pas été dites de la manière dont ils souhaitent que ce soit dit, eh bien, ils suivront Mallarmé, qui disait que la poésie, c'est donner un sens plus pur aux mots de la tribu. Mmh. Or, les logiciels traduisent les mots de la tribu avec de plus en plus de précision. Mais le sens plus pur que veut donner le locuteur, qui n'est pas forcément Mallarmé, à mon avis, ça restera l'enjeu véritable des langues.
Jean-Louis Dessalles, il y a évidemment la langue de la culture que décrivait Heinz Wiesmann, mais il y a aussi la langue des services. Et de ce point de vue-là, est-ce qu'on peut parler aussi, on peut regarder ce que pourrait produire les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle sur l'hégémonie de l'anglais. Est-ce que l'anglais va conserver sa centralité? Est-ce qu'il y a aussi là un enjeu dans le domaine technique, technologique, de bataille des langues où il faut qu'on mette le français dans la compétition de la traduction automatique? Enfin,
oui, alors l'enjeu de la traduction automatique, pour l'instant, concerne des langues majeures, sur lesquelles on a beaucoup de textes, puisque ces techniques se nourrissent de textes. Donc évidemment, ça exclut actuellement beaucoup de langues qui n'ont pas de grands corpus, et encore qui les ont peut-être, mais qui n'ont pas été numérisées. Mmh. Donc ça, c'est un véritable problème. L'autre véritable problème, effectivement, c'est, pour des raisons sociologiques, on a tendance à parler la langue dominante. Alors tant que c'est les adultes qui le font, ils ont le choix de parler leur langue maternelle ou une langue de service. Le danger, c'est quand ils commencent à élever leurs enfants dans la langue dominante. Et c'est comme ça qu'en France, par exemple, on ne parle plus que le français. Alors qu'il y a encore deux siècles, il y avait encore beaucoup de langues régionales qui étaient la langue maternelle de beaucoup de gens. Et donc, il y a un vrai danger d'uniformisation. Et donc, vous avez raison de pointer sur cet espoir, peut-être, que la traduction automatique permette aux gens de parler leur langue et surtout de cesser de souhaiter que leurs enfants parlent la langue dominante en se disant, bon, ils peuvent continuer à parler notre patois local et de toute façon, la traduction automatique résoudra tous leurs problèmes. Tout ça, ça peut être un espoir. Encore faut-il qu'ils veuillent échanger, voilà. Enfin, actuellement, on ne va pas échanger des choses très riches, voilà, comme vous avez dit tout à l'heure. Mais il y a un risque quand même d'appauvrissement justement de ces techniques. Et ça, c'est l'autre aspect, le revers de la médaille de l'appauvrissement, c'est que par construction, ces systèmes de traduction automatique sont terriblement conservateurs. C'est qu'ils traduisent en prenant des extraits de textes qui ont déjà été écrits. Donc, c'est ce que vous disiez sur la créativité de la traduction. Là, il faut pas, sauf en cas d'erreur. Alors, ils sont créatifs en cas d'erreur, certainement. Mais la plupart du temps, ils sont à l'aise quand ils sont dans le standard. Mmh. Et donc, effectivement, pour la conversation quotidienne, où précisément on essaie de se montrer original, on essaie de dire des choses inattendues dans la conversation, et si possible de manière appropriée, dans ce cas-là, les systèmes de traduction automatique vont nous décevoir, dans leur état actuel. Alors, voilà, il faut travailler pour les améliorer, certainement.
Anne Wiesmann, j'imagine que vous avez aussi, vous, espoir que ces nouvelles technologies cessent de pousser les gens à abandonner un certain nombre de langues, mais la question est de savoir si, de l'espoir, on va pouvoir passer à la réalité. Vous y croyez, vous ? Est-ce que vous pensez que ces technologies pourraient transformer, au fond, les politiques linguistiques quelles qu'elles sont ? Vous parlez par exemple de la francophonie. Vous dites que la francophonie comprise comme défense de la langue française, c'est une erreur. Est-ce que vous pensez que ces nouvelles technologies pourraient totalement bouleverser cette manière qu'on a de défendre certaines langues ?
Tout ça dépend du choix qu'effectuent ceux qui parlent. Si je décide de me contenter d'une information qui porte sur du factuel, sur des éléments que je peux désigner de manière précise, eh bien, j'abandonne ces langues inutilement compliquées, ou plutôt ces niveaux de langues inutilement compliquées. C'est mon choix. Mais dès que je m'engage dans une ambition, prenons un cas, là, on parlait de poèmes d'amour, un amoureux par exemple, il aura à cœur de se démarquer des locuteurs autres que lui. Il invente des petits mots d'amour, il fait dire à la langue, qui est sa langue de culture, tout ce qu'elle peut fournir de singularité pour se singulariser. Et bien, si ce souci est abandonné, si on réduit les choses au catalogue de mérites qui figurent sur Mythique ou d'autres sites de rencontres, là, les systèmes de traduction automatique sont parfaitement à l'aise. Voyez, la différence réside essentiellement dans le choix que je fais du niveau de communication où je me situe. Et les situations vécues changent évidemment d'un instant à l'autre, et nous utilisons même la langue historique que nous parlons à des niveaux différents. Il existe un français qui est tout à fait semblable à l'anglais international, dans la mesure où c'est le niveau factuel dans lequel un francophone peut aussi communiquer sans s'impliquer dans ce qu'il dit. Alors, je ne crois absolument pas que cette langue universelle d'information, que j'appelle langue de service, puisse, parce qu'elle rend d'éminents services, nous débarrasser du choix assez existentiel qui consiste à vouloir communiquer à autrui quelque chose qui nous est radicalement propre.
Par ailleurs, cette langue de service universelle, elle s'est jamais imposée. Ça fait longtemps qu'on a l'ambition de mettre en place une langue universelle qui serait parlée, comprise par tous. Au fond, l'espéranto qui avait été créé dans les années 1880, c'était déjà ce rêve-là. Et en fait, ça n'a jamais pris. On peut d'ailleurs se demander pourquoi.
Vous savez pourquoi l'espéranto n'a pas pris ?
Pourquoi ?
C'est tout simplement que c'est pas une langue évolutive. C'est-à-dire, dans l'espérance, c'est comme la machine qui dispose d'exemples de traduction et qui, avec une efficacité beaucoup plus grande encore, compare et puis trouve une sorte de moyenne convaincante de toutes les pratiques qu'elle observe ou qu'elle a dans les bases de données. Eh bien, l'espéranto n'a pas pris parce que c'est une langue de service de bas niveau, dans la mesure où, alors que l'anglais international, comme il est quand même greffé sur l'anglais, qui est une vraie langue de culture, permet l'intrusion d'éléments qui proviennent de cette langue de culture. Tandis que l'espéranto a été conçu, d'une certaine manière, de manière prémonitoire, comme une langue close. Et du coup, personne ne veut s'en servir. Et ça, c'est le choix humain. Je trouve que c'est très intéressant de distinguer les niveaux d'exigence des locuteurs pour aborder les questions que nous nous posons ici.
Et d'une certaine manière, Jean-Louis Dessalles, au fond, les technologies de traduction sont aussi des systèmes clos. En tout cas, ils ne sont pas des systèmes évolutifs. Ils progressent, mais ils n'évoluent pas.
Ils évoluent à la mesure de ce qu'on leur donne à manger, c'est-à-dire l'ensemble des textes auxquels ils ont accès. Donc effectivement, ils vont évoluer parce qu'ils vont être capables de traduire de plus en plus de langues et qu'il existe même maintenant des moyens de créer des dictionnaires avec très peu de corpus, c'est-à-dire très peu de textes. Hein. Le système, en repérant les mots fréquents, arrive à les aligner, donc c'est très impressionnant. Donc les techniques évoluent. Hein. Un système de traduction qui serait donné comme ça, clé en main, n'évolue pas. Mais les techniques évoluent et on va arriver à de belles choses. Hein. Mais voilà, pour faire écho à ce que vous venez de dire, moi j'ai travaillé pas mal sur les conversations quotidiennes. Et par exemple, quelqu'un prononce typiquement en moyenne 15 000 mots par jour, 16 000 mots par jour. C'est considérable, entre 0 et 50 000 mots on prononce. Et ça veut dire que nous sommes des gens bavards. Les humains sont terriblement bavards. Et le fait que des systèmes leur permettent... Enfin, il faudra vraiment que les systèmes soient très très bons pour arriver à suivre le flot de paroles en langue, non pas officielle, mais en langue parlée, avec toutes les hésitations... voilà, il reste encore une petite marge de progression pour les systèmes de traduction pour suivre l'oral au quotidien.
Et on va essayer de comprendre pourquoi, au fond, nous sommes aussi bavards. Jean-Louis Dessalles, Hans Wiesmann sont nos invités ce matin dans cette série consacrée aux guérillas linguistiques de Babel, à Google Trad vers un nouveau langage universel. Justement, on va faire un petit retour en arrière du côté de Babel.
Livre de la Genèse, chapitre 11. Toute la terre avait alors la même langue et les mêmes mots. Au cours de leur déplacement du côté de l'Orient, les hommes découvrirent une plaine en Mésopotamie et s'y établirent. Ils se dirent l'un à l'autre « Allons, fabriquons des briques et mettons-les à cuire. » Les briques leur servaient de pierre et le bitume de mortier. Ils dirent « Allons, bâtissons-nous une ville, avec une tour dont le sommet soit dans les cieux. Faisons-nous un nom pour ne pas être disséminés sur toute la surface de la terre. »
Et après avoir essayé de construire cette tour touchant le ciel, ces hommes, rescapés du déluge, qui parlaient tous la même langue, furent punis et Dieu descendit sur terre pour embrouiller leur langue, pour punir les intrépides bâtisseurs condamnés à vivre dans une ville où ils ne comprenaient plus, c'était Babel. La question de savoir, Jean-Louis Dessalles, si toutes les langues parlées sur terre dérivent ou pas d'une seule et même langue mère, quelque chose qui obsède évidemment les linguistes depuis très longtemps et pendant longtemps aussi, et un temps pas si lointain d'ailleurs, on a un peu écarter cette idée considérant qu'elle était scientifiquement absurde. Par exemple, j'ai appris moi que dans les années 1860, la Société de linguistique de Paris avait même inscrit dans ses statuts, qu'elle n'admettrait aucune communication sur une supposée langue originelle, supposée langue universelle. Est-ce que cette question, Jean-Louis Dessalles, vous aviez participé à un ouvrage collectif, Les origines du langage, elle est aujourd'hui aussi absurde scientifiquement qu'on n'a pu le dire par le passé? Et est-ce que les technologies, l'intelligence artificielle, ont des choses à nous dire sur ce point?
Alors, je vais peut-être vous surprendre, mais je pense que dans les années 1860, cette Société linguistique de Paris a eu tout à fait raison d'interdire, parce que c'était de la spéculation gratuite sur l'origine des langues et du langage. Donc, ceci dit... l'eau a coulé sous les ponts et maintenant on a d'autres méthodologies. Et c'est tout à fait une question scientifique, c'est même mathématiquement obligatoire que toutes les langues parlées actuellement dérivent d'une seule langue, que vous pouvez parfaitement appeler la langue mère, pour la simple raison que, alors sous l'hypothèse, qu'il n'y a pas de création linguistique, de création de langue à partir de rien, ce qui est à peu près vrai. On pourrait mentionner le cas des créoles, des pidgins qui se transforment en créoles, qui pourraient être assimilés à une création linguistique à partir de langue à partir de rien. Mais pour l'essentiel, sachant que les langues n'apparaissent pas à partir de rien, elles dérivent les unes des autres, eh bien, mathématiquement, toutes les langues qui existent aujourd'hui dérivent d'une langue qui a pu être parlée il y a 50 000 ans à peu près. Mais, on peut l'appeler la langue mère. Mais il faut prendre conscience que la langue mère n'est pas si magique que ça, parce qu'à cette époque-là, on parlait énormément de langues aussi. Simplement, certaines sont restées sans filiation, et par un hasard total, il y en a une qui a finalement envahi l'espace linguistique mondial. Mais voilà, donc ça, c'est pas si magique que ça. C'est un peu comme l'origine des espèces. les espèces qui sont actuelles, voilà, vous prenez toutes les espèces de primates actuelles, eh bien, vous pouvez remonter à une espèce de primate unique qui vivait il y a 60 et quelques millions d'années. Ça n'a rien de miraculeux, c'est rien que par le jeu des filiations.
Mais comment on fait pour valider les hypothèses s'agissant des langues? Parce que pour les primates, je vois bien, hein, on creuse la terre, on trouve des restes, on étudie, on compare, et puis on arrive comme ça à créer des généalogies. Pour la langue, on fait comment?
Ça, c'est le domaine de la philologie, l'étude de la dérivation, pour ce qui est de dater les phénomènes. Hein. J'ai dit 50 000 ans, bon, ça coûte pas cher, on n'était pas là. Le travail, par exemple, sur l'indo-européen avait été fait depuis plus d'un siècle, où les gens ont commencé à comprendre que les langues indo-européennes avaient dérivé d'un proto-indo-européen qui a dû exister, dit-on, il y a quelques 5000 ans. Voilà, donc ça, les méthodologies permettent d'abord de repérer les parentés entre langues, de faire un arbre généalogique. Ça, on sait à peu près le faire sur les langues existantes. Et après, on essaie de dater. On essaie de dire, en extrapolant, bon, pour l'indo-européen, ça doit faire 5000 ans. Si on prend toutes les langues du monde, ça doit faire à peu près 50 000 ans. Mais notre espèce est beaucoup plus ancienne. On jacassait, et il y a déjà, enfin, il y a 100 000 ans, on jacassait autant que maintenant, et de la même manière. Donc, voilà, cette origine des langues existe certainement, mais elle n'est pas spectaculaire.
Anne Wiesmann, cette quête de cette langue mère, de cette langue universelle, elle est ancienne en réalité. Ce n'est pas du tout une entreprise si moderne qu'on pourrait le penser.
Enfin, historiquement, la langue adamique, qui est donc, Dieu avait ordonné à Adam de nommer les êtres. Une fois chassé du paradis, il a eu une descendance, et cette descendance a bénéficié, selon la tradition biblique, de cette langue adamique. Ensuite, après Babel, les idiomes se sont différenciés, et pendant des siècles et des siècles, on a essayé de savoir laquelle des langues vivantes qu'on parlait était la plus proche de la langue adamique. On a pensé d'abord que c'était l'hébreu, ensuite on pensait que c'était le grec, ensuite on pensait que c'était le latin. Et au XVIIIe siècle, on était convaincu que c'était le français. En fait
pourquoi? Parce que c'était la langue dominante de l'époque?
Oui.
Tout simplement.
C'est tout simplement.
Oui, oui.
Et ce qui est maintenant cocasse, c'est de se dire, si l'anglais international devient la langue dominante de l'époque, portée en plus par les performances des machines, ce serait la langue du paradis. Là, il y a quelque chose qui cloche. Et enfin, j'ai envie de vous renvoyer à une œuvre très singulière. C'est une cinéaste israélienne qui fait des petits films sur des langues, toutes sortes de films. Elle s'appelle Nourit Aviv. Elle a fait un film qui m'a profondément impressionné, intitulé « Signé » sur la langue des sourds muets. Or, elle montre que il existe des langues des signes qui sont des langues nationales, c'est-à-dire il existe un français signé, comme il existe un anglais signé, un arabe signé, etc. Et dans ce cas, la langue des signes n'a aucune autonomie par rapport à la langue parlée. Mais elle a trouvé un village quelque part en Palestine, je crois, où pour des raisons génétiques, la quasi-totalité de la population est sourde. Et ces gens-là, à commencer par les gestes des mères vis-à-vis de leur bébé, eh bien, ils ont créé une langue des signes qui ne reproduit aucune langue existante. Et là, on assiste à un phénomène extraordinaire, intéressant, du point de vue que vous avez introduit. C'est-à-dire, comment émerge soudain une langue? De quel mécanisme dépend l'apparition d'une langue? Et donc, j'inverserai volontiers la perspective. Il est naturellement intéressant de voir d'où viennent les langues existantes, c'est-à-dire comment elles dérivent les unes des autres. Mais une question beaucoup plus profonde, c'est de se demander comment naît une langue.
Voilà. Si justement on se pose cette question-là, Jean-Louis Dessalles, si on se demande comment émerge une langue, on peut aussi avancer l'hypothèse qu'il y a un besoin absolument irrépressible chez nous humains de communiquer. Et c'est justement un sujet que vous abordez dans l'ouvrage collectif que je mentionnais tout à l'heure, les origines du langage, et vous y écrivez, je cite, « Pourquoi les êtres humains communiquent-ils les événements inattendus ou émotionnels et pourquoi argumentent-ils? Ces questions n'ont pas le caractère évident qu'on a pu leur prêter par le passé. » Je vais vous poser la question de façon extrêmement abrupte. Pourquoi ce besoin de communiquer, d'argumenter chez les humains?
Effectivement, c'est une question qu'on aborde dans ce petit livre collectif. C'est écrit avec Pascal Pic et Bernard Victory. Et donc, on s'est posé cette question, enfin, on se l'était posé bien avant, et c'est bizarrement une question qui est peu posée, hein, pour qu'on parle, parce que les humains trouvent ça extrêmement naturel. Mais je vous rappelle, 16 000 mots par jour, les animaux font pas ça, hein, ils communiquent, oui, mais souvent c'est très répétitif, très répétitif. Mmh. Les oiseaux communiquent beaucoup, mais voilà, c'est souvent la même chose. Et la sémantique qui est derrière est pas très compliquée, c'est « ceci est chez moi » ou « où je suis le plus beau », c'est souvent les mâles qui chantent. Les humains font quelque chose de tout à fait différent. Donc il y a vraiment, il faut se poser la question, c'est la moindre des choses.
Et alors, est-ce qu'on a des hypothèses? Parce qu'il y en a une que vous avancez, il y a l'hypothèse, j'allais dire, darwinienne, qui consiste à dire qu'au fond, si nous parlons aujourd'hui, c'est parce que lorsqu'il y avait plusieurs groupes, certains peut-être parlants, d'autres non parlants, eh bien les groupes, disons, parlants, communicants, avaient justement un avantage par rapport aux autres, et donc c'est ces groupes-là qui sont restés, et donc nous parlons, cette hypothèse darwinienne-là, est-ce qu'elle résiste à l'épreuve des faits?
Alors, c'est pas une... voilà, précisément, c'est pas une hypothèse darwinienne. C'est une hypothèse qui se dit darwinienne, mais qui n'est pas conforme à la théorie de la sélection naturelle. Parce que la théorie de sélection naturelle ne parle quasiment pas de sélection de groupe. Hein. C'est vraiment... Donc voilà. Et ça fait partie... Alors ça, c'est l'idée dominante, mais de très loin, qui permet d'évacuer la question. C'est de dire, on parle parce que c'est utile. Et à ce moment-là, un enfant de 5 ans pourrait dire ouais, ben, très bien, mais pourquoi les chimpanzés, ça serait utile aussi pour eux de parler comme on le fait d'un côté. Et puis de l'autre côté, on regarde un petit peu le contenu de nos conversations, comme je l'ai fait, et croyez-moi, l'utilité, elle passe au second plan. Hein. C'est rempli de choses qu'on pourrait considérer comme largement futiles. Voilà.
C'est même l'essentiel.
Voilà. On parle de choses.
Dans une journée, je veux dire, bon.
En venant à la maison de la radio, j'ai croisé une dame là parce qu'elle m'a vu prendre une photo. Ils étaient en train de décaper une façade et il y avait tout tombé sur les voitures. Il y avait une Porsche là qui était recouverte, une voiture de luxe qui était recouverte de boue. J'ai pas pu m'empêcher de prendre la photo et elle a éclaté de rire en me disant justement c'est ce que je voulais faire. Alors, on a commencé à engager la conversation. Ouais. C'est totalement futile. Mmh. Voilà de quoi sont remplies nos conversations.
Hans Wiesemann, pourquoi parle-t-on ?
Oui. Enfin, moi je pense que on ne parle pas parce qu'on a déjà quelque chose à dire. C'est ce que nous faisons parce que nous disposons de la différence entre une langue fonctionnelle qui est la langue dénotative, eh ben on l'utilise quand on veut parler de quelque chose. Mais pourquoi éprouve-t-on le besoin d'ajouter à ce qu'on dit des choses quelque chose qui nous est propre? Eh bien, ça tient à la nature humaine qui est, à la différence des machines, éminemment fragile. C'est-à-dire, nous, on est capable d'avoir des blancs. On est parfois, on a ras-le-bol, on est parfois angoissé, on est parfois tenté de mutisme, etc. Et la communication, à mon sens, porte essentiellement à ses origines sur ces états de manque. C'est-à-dire, on cherche chez l'autre une forme de réconfort. Et c'est ça que dans le film Signé, on voit merveilleusement quand Nourrit Aviv montre comment les mères sourdes s'adressent à leurs enfants sourds. En fait, c'est une communication qui est liée essentiellement, non pas à l'utilité de ce qu'il faut faire et de ce qu'il faut ne pas faire, ça vient après. C'est essentiellement lié à transmettre et à trouver la résonance d'un état affectif. Et ça se traduit par des gestes qui ne sont pas donc des mots. Or, les êtres humains, j'y tiens beaucoup à cette affirmation, les êtres humains communiquent non pas parce qu'ils ont quelque chose à communiquer, dans le sens de l'information, mais parce qu'elles veulent communier, ce qui est tout à fait autre chose.
Alors là, c'est très intéressant, Jean-Louis Dessalles, parce que j'ai vu que vous vouliez réagir, je vais vous laisser réagir librement, mais... Vous nous dites, Hans Wiesemann, on recherche du réconfort. Vous avez, vous, à Paris Tech, mené des expériences, vous avez modélisé, au fond, la discussion, la coopération langagière, et vous avez regardé, au fond, quand est-ce que ça marchait. Et il se trouve qu'il y a des conditions dans lesquelles la coopération langagière fonctionne mieux. Alors, il faudrait peut-être nous donner les conditions, parce que, justement, dedans, il n'y a pas la recherche de réconfort. Alors, je voudrais comprendre ce que nous disent, justement, les...
Alors,
expliquez-nous.
Hans Wiesemann a tout à fait raison d'attirer l'attention sur le fait que la fonction première du langage, elle est sociale. Ouais. Sociale au sens large, donc si c'est un petit groupe, ça sera très affectif, donc il y a un aspect. En fait...
Oui, mais pas pour les machines.
Pas pour les machines. Enfin, quand je travaille avec des machines, c'est pour essayer de démonter ce que font les humains. Hein. Donc moi, je fais la rétro-ingénierie sur l'être humain. Et donc quand vous faites référence à ces expériences, c'est vraiment pour amener des machines un petit peu argumentées comme nous le faisons. Mais il semble y avoir un fossé entre ce qu'on veut faire, qui est se faire des amis, faire des liens sociaux forts qui peuvent être ancrés sur l'émotion partagée, d'un côté, et de l'autre côté, ces fameux 16 000 mots qui sont à propos de, par jour, qui sont à propos de choses très futiles. Et alors, quand j'ai étudié les conversations, je me suis aperçu qu'il y avait un déterminant, mais vraiment absolu, sur ce que les gens disent. C'est un élément d'inattendu. C'est-à-dire, la voiture de luxe qui était couverte de boue, de manière à, on s'attendait à la voir tout à fait rutilante, impeccable, pas une seule tache, et là c'était l'extrême inverse. C'est une situation inattendue. Et donc, j'ai éprouvé le besoin d'en parler à la première personne qui était là. Ce réflexe de communication à propos de l'inattendu, c'est une vraie question de savoir pourquoi l'être humain est comme ça. Pourquoi l'être humain prend le prétexte de n'importe quelle situation inattendue, pour communiquer avec son prochain et essayer effectivement de partager quelque chose qui peut être simplement de l'insolite ou mieux, quelque chose d'émotionnel dans certains cas.
Et qu'est-ce qui se passe quand on modélise la coopération langagière, quand on regarde ce que font les machines ? Vous écrivez, je vous cite, « Contrairement à l'intuition première, la coopération n'est possible que dans des conditions assez particulières qui dépendent de trois paramètres. Le gain procuré par le fait de détenir une information, le coût associé au fait de communiquer une information et l'efficacité de la sélection des bons coopérateurs. » Qu'est-ce que je dois tirer de tout ça ? Alors, quelles leçons tirer pour nous ?
La conclusion de tout ce petit texte, c'est que le mot coopération n'est peut-être pas forcément le meilleur. C'est celui qu'on utilise le plus souvent, c'est pour ça que je l'utilise dans ce cas-là. Mais c'est beaucoup plus une affaire de signal. C'est-à-dire qu'on a envie de signaler le fait qu'on a repéré l'inattendu. Et c'est presque un réflexe dans notre espèce. Dès qu'il y a quelque chose d'inattendu, on le signale. Et donc, dans ce cas-là, appeler ça de la coopération, c'est peut-être pas forcément la meilleure façon de décrire la situation. Mmh. On essaie de pointer vers l'inattendu. Les enfants le font dès l'âge d'un an. Les enfants pré-linguistiques, à l'âge d'un an, commencent à pointer vers l'inattendu. Si on leur met un stimulus inattendu dans la pièce, ils vont montrer, alors dans notre culture, c'est avec le doigt, et ils vont attirer l'attention des adultes. Et s'ils ne le font pas, en général, c'est mauvais signe. Ça veut dire qu'il y a peut-être une suspicion d'autisme. Tous les enfants en bonne santé pointent vers l'inattendu dès l'âge d'un an. Et nous continuons tout au long de notre vie.
Heinz Wissmann. Et puis ensuite, on va accueillir une nouvelle invitée et on va essayer de parler à Dieu. Heinz Wissmann.
J'ai envie... Je ne peux pas m'empêcher de souligner un fait que la philosophie a amplement traité, scruté, à savoir que l'être humain, dans son infériorité absolue, qui est due à sa naissance précoce, au fait qu'il est désarmé vis-à-vis de l'environnement, il est beaucoup plus faible que les animaux qui naissent. Alors l'être humain tire sa supériorité sur les autres espèces vivantes de son infériorité. C'est Kant qui a dit « Ce qui nous rend supérieurs à tout autre être doué de raison, c'est que nous sommes des êtres de manque. Nous avons le défaut de mourir et d'avoir la conscience de mourir. » Et à partir de cette conscience, s'instille dans notre existence un ensemble extraordinaire d'émotions qui sont toujours liées, alors inattendu est un mot que je retiens, mais à des états de rupture. Dans la mesure où la continuité assurée, ça c'est une forme d'immortalité, tandis que la rupture, même anticipée, quand je pense que je vais mourir ou que je n'ai pas assez de temps pour faire ce que je veux faire, et ensuite j'en ai plus envie, etc., cet enchaînement de perceptions, de rupture, d'échéance inévitable, etc., constitue, à mon avis, le véritable ressort de toutes les initiatives humaines, y compris des initiatives de communication où ils cherchent chez autrui la confirmation de la pertinence de leur état. Et ça, c'est une coopération entre guillemets, si on veut, puisqu'elle n'est pas utilitaire.
Parlons de glossolalie.
Glossolalie.
Voilà, on entend là de la glossolalie. L'encyclopédie universaliste nous dit que la glossolalie, le parler en langue, c'est un phénomène religieux de type mystique ou paranormal qui fait que certaines personnes ont le pouvoir de s'exprimer de manière à être entendues et comprises dans une langue qu'elles n'ont pas apprise ou d'utiliser des langues, leur langue propre de telle sorte que les auditeurs en sont subjugués et comme envoûtés. Voilà ce qu'on lit. On va retrouver une nouvelle invitée. Marion Aubray, bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes anthropologue, enseignante, chercheuse. C'est un phénomène, la glossolalie, qu'on rencontrait déjà dans la Grèce antique. On en trouve aussi des traces dans le Nouveau Testament. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Voilà ce qu'on lit dans la première épître aux Corinthiens de l'apôtre Paul. Est-ce que c'est ça, la glossolalie, c'est parler à Dieu?
Alors justement, ça n'est pas toujours cette chose-là, parce que ça peut l'être pour beaucoup de croyants, mais par contre, la dynamique communautaire qui est dans les groupes pentecôtistes en particulier, donc le pentecôtisme étant branché sur l'inspiration du Saint-Esprit, dans cette mesure-là, il y a une dynamique qui se forme, mais qui est une dynamique d'un autre type. C'est-à-dire, on ne parle pas à Dieu, mais on reçoit des messages de Dieu par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Donc, ces messages, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces messages, le fait de parler en langue est l'un des dons du Saint-Esprit, mais il est très très rare que les personnes qui reçoivent le don en question puissent traduire elles-mêmes ce qu'elles ont reçu. C'est-à-dire, en général, il y a le don des langues, et puis après, il y a le don de traduction qui, la plupart du temps, est détenu par quelqu'un d'autre. Donc, c'est une autre personne qui va traduire le message reçu. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce message de glossolalique, qu'on trouve chez tous les charismatiques et les pentecôtistes à l'heure actuelle, dans la mesure où cette religion qui fait appel au Saint-Esprit se répand énormément dans le monde actuellement, dans tous les continents. Et une des choses qui vraiment est très importante, c'est le fait que ce sont des langues spécifiques à chaque individu. C'est-à-dire, un individu sous le coup de l'émotion partagée dans une communauté va tout à coup émettre des sons qui ne font pas sens. Mais ce qui est intéressant, c'est que le linguiste Samarin, qui a beaucoup étudié cette dynamique-là aux États-Unis, dit qu'en fait, ça ne fait pas sens, mais le rythme de la langue ressemble à une langue naturelle. Donc, quand on entend ces émissions, on peut penser qu'il peut s'agir d'une langue étrangère. C'était l'interprétation qui était donnée au départ du pentecôtisme aux États-Unis.
Oui, sachant qu'au départ, Marion Aubray, peut-être, rappelons-le, la glossolalie, elle est vécue comme, au fond, la confirmation que le baptême a bien été accepté par la divinité. Mais si on revient effectivement sur cette langue. On voit parfois, Marion Aubray, dans des églises pentecôtistes, des phénomènes de transe avec des fidèles qui se mettent à crier, à gesticuler, voire même à danser, un peu comme s'ils étaient au fond un peu possédés, qu'ils ne contrôlaient plus leur logorée. Est-ce que la glossolalie est affiliée à cette forme-là? Et la question que je veux poser ensuite, c'est est-ce que cette glossolalie, elle se joue dans une sorte d'état modifié de la conscience, Marion Aubray?
Oui, absolument. Absolument, on considère, enfin les gens qui travaillent sur la glossolalie considèrent, excusez-moi mais j'ai un retour qui est très désagréable.
Peut-être avez-vous un haut-parleur, auquel cas il faudrait le retirer.
Non, absolument.
Effectivement,
pas.
on a un larcène, alors on va essayer de régler ça, on va couper ici le son, on va essayer de retrouver.
Le téléphone pour refaire une liaison propre, s'il vous plaît.
Heinz Vesna, oui. Peut-être réaction sur... Ah, ça y est, on vous entend bien. Alors allez-y, Marion.
Je vous disais donc, oui, effectivement, que il s'agit en fait d'une transe verbale. C'est-à-dire, de même qu'on a étudié les transcorporels, dans lesquels les gens ont font des choses extraordinaires, eh bien, on peut dire que l'acte de soleil est une forme de transverbal, c'est-à-dire qu'à un moment, ça a été expliqué d'ailleurs par les gens qui font de la biologie scientifique, il y a une espèce de coupure entre les deux moitiés du cerveau, et ce qui fait que les gens émettent des sons phonétiquement, mais que ça ne fait pas sens. Et donc, il faut être dans un état, il faut se trouver dans un état particulier pour pouvoir émettre ce genre de choses. Et comme je l'ai moi-même analysé à certains, par rapport à ce que j'ai vu, c'est toujours au moment où il y a une forte émotion partagée, c'est-à-dire ce sont les moments d'exaltation dans lesquels les personnes, tout l'ensemble de la communauté crient gloire à Jésus, etc. C'est dans ces moments exaltés que sortent tout à coup, que sont émises des glossolalies.
Réaction peut-être avec nos invités en plateau, Jean-Louis Dessalles, Heinz Wiesmann. Au fond, ce qu'on entend là, c'est que le sens est secondaire et que c'est l'envie, au fond, de s'exprimer, de parler qui est premier, Jean-Louis Dessalles et Heinz Wiesmann.
Oui, dans ce cas-là, on permet à l'émotion presque à l'état pur de s'exprimer. Donc c'est l'émotion mystique, par exemple. Et pour reboucler avec ce qu'on disait au tout début, là, si vous voulez demander à un traducteur automatique de traduire la glossolalie, ça, le résultat risque d'être pour le moins décevant. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, le traducteur va traduire les faits, va traduire la surface, mais ne va pas aller à l'emphase, va être totalement incapable de rendre compte de ces emphases mystiques.
Heinz Wiesmann, sur cette glossolalie, sur ce phénomène.
Je trouve qu'il faut distinguer la glossolalie de l'axénolalie. Parce que c'est établi. On peut parler de manière inintelligible, et si on creuse un peu, on découvre, on parle une langue qui existe. Ça, c'est l'axénolalie. Ensuite, si on ne trouve pas la langue correspondante à ce qui est émis comme son troublant, eh bien, on parle de glossolalie. Or, glossolalie, excusez, c'est un mot qui, d'une certaine manière, est une... Je ne sais pas comment dire... Un concept qui se mange sa queue. Parce que glossa, c'est d'abord la langue. Mmh. Et l'haleine, c'est une onomatopée pour dire faire un usage de la langue.
Parler, oui.
Oui, mais déjà parler, c'est beaucoup dire. Puisque il s'agit essentiellement d'émettre des sons articulés à l'aide des mouvements de la langue. Hein, ça, c'est, la glossa, c'est la langue. Et l'haleine, c'est utiliser la langue. Voilà, ce qui est intéressant dans ce phénomène de glossolalie, c'est pas tellement, il me semble, de rechercher à quelle langue peut correspondre ce qui est émis, mais de se demander, et ça a été d'ailleurs un peu fait dans l'intervention que nous avons écoutée, quel est le mobile profond qui pousse un être humain qui, avec ses congénères, utilise une langue qui est beaucoup plus intelligible, à utiliser soudain une langue qui ne l'est pas. C'est que, je reviens à mon idée de l'inexprimable souci, de l'angoisse, etc. En certain moment, quand on est possédé par l'angoisse ou par un autre type d'émotion, on ne trouve aucune langue existante adéquate. Et du coup, on façonne une langue dans l'excitation qui est d'une certaine manière l'expression exubérante de notre exigence de communier.
Merci infiniment, Marion Aubry qui est avec nous à l'instant par téléphone. Un grand merci à vous, Heinz Wiesmann et Jean-Louis Dessalles d'avoir été avec nous. On mettra toutes les références de vos ouvrages sur le site de Culture Monde. Un grand merci. 11h53 minutes, l'heure pour nous de retrouver Brice Couturier et son Tour du Monde des Idées.
Le Tour du Monde des Idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Alors on continue de parler d'Europe et une contribution de l'ancienne ministre espagnole des Affaires étrangères. Comment l'Europe peut-elle se protéger de la désinformation ?
Oui, c'est un article mis en ligne sur le site Project Syndicate. Mauvaise nouvelle, il est en train de devenir payant et je vais donc devoir abandonner cette source. Alors, cet article. Populisme, nationalisme, illibéralisme, il y a une offensive générale contre nos démocraties européennes, estime Anna Palacio. Et la désinformation est largement utilisée pour nous déstabiliser. Certes, concède-t-elle, qu'on cherche à manipuler à son profit l'opinion publique chez ses adversaires. Mon Dieu, c'est vieux comme la diplomatie. Les protagonistes de la guerre froide en ont usé largement. Mais la nouveauté, C'est la manière dont de fausses informations peuvent être disséminées, la vitesse de propagation qu'elles peuvent atteindre grâce aux ressources du numérique. Qu'on ne s'y trompe pas, le but des puissances qui prennent ainsi en otage nos opinions publiques n'est pas forcément de répandre des idées favorables à Poutine ou aux intérêts géostratégiques de la Russie. Non, il est de jeter le doute sur toutes les informations, de désintégrer la vérité en minant la possibilité même d'un discours de vérité reposant sur des faits attestés. C'est le meilleur moyen de ruiner la confiance des citoyens de nos démocraties envers la démocratie elle-même, car celle-ci exige des citoyens informés, éclairés, avertis des réalités, et donc capable d'émettre des jugements fondés sur une perception partagée de la vérité. Quand beaucoup doutent de tout, les nations deviennent ingouvernables. Des efforts systématiques destinés à s'attaquer à ces offensives ont enfin été entrepris, ajoute-t-elle. Mais on a d'abord assisté passivement aux interférences russes dans la campagne électorale pour le Brexit en Grande-Bretagne, dans la campagne présidentielle américaine et durant les présidentielles françaises de 2017, avant que l'UE se décide enfin à réagir. Or, le combat, juge Anna Palacio, est actuellement trop concentré sur l'offre et pas assez sur la demande. Certes, on a obtenu des réseaux sociaux américains qu'ils suppriment beaucoup de ces faux comptes alimentés depuis la Russie, qu'ils contrôlent mieux les bots qui inondent la toile de rumeurs fantaisistes ou alimentent de fausses polémiques destinées à cliver les opinions publiques occidentales. Les Russes ne peuvent plus exploiter certaines failles des algorithmes afin de cibler précisément les types de publics qu'ils cherchent à influencer. Mais tout cela ne devrait être qu'un début, selon elle.
Alors Brice, Emmanuel Macron a proposé à nos partenaires la création d'une agence européenne destinée à protéger les processus électoraux des cyberattaques et des manipulations. Où en est-on ?
Pour Thorstein Benner, le directeur du Global Public Policy Institute, c'est insuffisant. Il faudrait interdire le financement des partis politiques européens par des puissances étrangères à l'Europe, quelles qu'elles soient. Aujourd'hui, dit-il, l'essentiel de l'influence étrangère passe par des portes ouvertes. Les élites au pouvoir, en Chine, en Russie, dans le Golfe et partout, ont compris que tout s'achète dans nos sociétés capitalistes, y compris l'influence politique. La clé, c'est de suivre l'argent. C'est pourquoi les médias, les universités, les think tanks, les lobbyistes, les banquiers et les avocats devraient être mis dans l'obligation légale de déclarer la nature de leurs liens avec des États autoritaires. Récemment, le Parlement allemand a voté une loi assimilant les médias de ce pays à des infrastructures critiques. Cette loi permet d'interdire la création ou la prise de contrôle d'un journal ou d'un site d'information par une puissance étrangère. Mais les financements sont souvent si opaques qu'il est devenu difficile de savoir vraiment d'où vient l'argent. Pour en revenir à Anna Palacio, selon elle, ce n'est pas du côté de l'offre dont il faut porter l'effort, mais de celui de la demande. Le vrai danger pour la démocratie, c'est la crédulité des publics. Le goût pour les rumeurs fantaisistes, les explications recourant aux théories complotistes, le mélange délétère de l'information et de l'entertainment. C'est pourquoi la manière la plus efficace de lutter contre les entreprises de déstabilisation dont les démocraties européennes sont victimes, c'est d'apprendre très tôt, dès l'école, à flairer le bobard ou la propagande, à démêler par soi-même le vrai du faux. La meilleure arme contre la désinformation, c'est l'esprit critique. Il faut aussi sensibiliser les citoyens à leur propre responsabilité dans la diffusion de fake news. Enfin, il faut consolider le tissu social des sociétés, recréer parmi les populations ce sentiment de confiance envers leur pays et son avenir qui a permis autrefois de résister aux puissances totalitaires. Les nations sûres d'elles-mêmes, confiantes en leur cohésion et en leur capacité de résilience, sont immunisées contre la propagande déstabilisatrice. Il nous faut, écrit-elle, renforcer nos sociétés de l'intérieur pour les rendre aptes à résister aux défis externes. Vous me direz, plus facile à dire qu'à réaliser.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. Dans un très court instant, on retrouve Olivia Gesbert et la Grande Table.